Il n'est pas question, en tout cas sous le magistère du président de la République Macky Sall,
RFI,
de revenir, effectivement, ou bien de légaliser l'homosexualité.
Grand reportage.
Mais parce que tout simplement, la société sénégalaise ne s'y prête pas.
À entendre le ministre de la Justice du Sénégal, Malick Sall, se pose donc cette question. Comment être homosexuel dans le pays ? Tous s'exposent à 5 ans de prison et une lourde amende, disposition prévue par le code pénal qui, depuis les années 60, réprime, je cite, « tout acte contre nature entre deux personnes du même sexe ». Pénalisé par l'État, l'homosexualité est en grande majorité rejetée par les familles, les communautés et surtout les confréries religieuses du pays. Les homosexuels, ainsi que les militants LGBTI, sont nombreux à se cacher et doivent taire leur orientation, sous peine de perdre emploi, famille et amis. Nous sommes allés à leur rencontre. Afin de protéger leur identité, leurs prénoms ont été modifiés. Au Sénégal, la communauté LGBTI condamnée au silence, un grand reportage de William Delesseux.
C'est une des rues passantes de Rufisque en banlieue de Dakar. Un peu plus d'une demi-heure de la capitale, dans un des quartiers populaires de la ville, non loin du marché qui s'apprête à fermer en cette fin de journée, celui que nous appellerons Ibrahima descend d'un taxi-moto, une mobylette Jakarta. Ibrahima est homosexuel. Le jeune homme s'installe sur un banc public. Il a apporté avec lui un cahier d'écolier rouge.
Quand je suis seul, je préfère rester et écrire ce qui m'est arrivé et ce que j'endure en ce moment.
Ouvert à la 5e page, le texte écrit sur son carnet relate une découverte il y a 3 ans. Ce jour-là, après un rapport non protégé, Ibrahima se sent fiévreux. Il va alors consulter un médecin.
Bon, j'étais dans un hôpital de la place. Et le médecin m'a recommandé de faire le test VIH. Et bon, c'était vraiment difficile, mais je voulais le faire pour savoir ce qui m'est arrivé. Par la suite, on m'avait dit que j'avais le VIH1.
Le jeune homme vit aujourd'hui avec les traitements antirétroviraux accessibles gratuitement dans le pays. Toutes ses économies passent cependant dans les analyses, l'équivalent d'une 100aine d'euros plusieurs fois par an. Sans emploi, encore étudiant, le jeune homme est contraint de vivre avec sa famille.
Quand j'ai découvert que j'avais le VIH en 2017, je ne pouvais pas le garder moi-même. Je ne trouvais pas de solution. J'avais parlé à mon grand frère. Par la suite, il en a parlé à ma mère, mais elle ne voulait pas accepter ça. Elle m'a dit, tu as été fautif et il faut accepter tes fautes toi seul. Tu ne vas pas salir le nom d'Ama. C'est ce qu'il m'a quand même dit. C'est ce qui m'a poussé en 2017 d'essayer de me suicider quand même. J'avais pris plusieurs médicaments, mais par la suite, j'ai dit que ça, c'est pas la solution quand même. Si Dieu m'a choisi de faire passer ma vie dans ces situations, c'est que je dois le surmonter quand même.
Comment avez-vous fait à l'époque pour vous en sortir? Comment ça s'est passé?
Il y avait seulement l'assistance sociale de l'hôpital où je suis mes traitements qui me conseillait à chaque fois. Quand j'avais pris les médicaments pour me suicider, elle m'avait dit, c'est pas la fin du monde ou quoi. Faut juste que tu prennes ta vie en main. Tu n'es plus un gamin. Et depuis lors, j'ai pris ce conseil comme une arme. Je veux vraiment vivre. C'est peut-être ce qui m'a motivé à être présent jusqu'à ici. Même si ma famille n'accepte pas ça, je devais vivre avec eux. C'est la seule solution. Même si on me stigmatise, on me dit n'importe quoi. Parfois, quand il y a des actualités liées à des homosexuels au Sénégal, à chaque fois, ma mère en parlait avec un ton sévère, comme s'il disait, ils ont la vie foutue, personne ne va foutre ma vie. Je préfère te tuer la personne que le laisser foutre ma vie comme ça. Elle me disait chaque fois ça. Je vis une maladie qui me fait mal. Même si je ne le dis à personne, ça me ronge le cœur. J'ai une position négative dans la société que je vis, qui est l'homosexualité. Et ta famille te tourne le dos. Ces trois choses me font vraiment mal. Je ne vois pas pourquoi il se comporte comme ça avec moi, vraiment.
Au Sénégal, assumer son identité et son orientation sexuelle, c'est le plus souvent se faire traiter de gorjigen, En wolof, la langue la plus parlée dans le pays, ce mot veut dire « homme-femme ». Afin d'éviter une forme de mort sociale, mieux vaut se cacher. Samir a 28 ans, il habite Thiès, à l'est de Dakar.
J'ai grandi ici avec ma famille et tout. Chaque jour, tu te caches. Bon, il y a des choses que tu ne peux pas faire à la maison. Je n'invite pas quelqu'un à qui nous avons même orientation chez moi. Je ne peux pas l'inviter de venir chez moi. Voilà, juste pour sauver ma peau, en fait. Je me casse parce que une fois que ma famille a découvert que moi, je suis homosexuel, je risque vraiment d'être expulsé sur moi. Je risque d'être aussi enfermé ou bien même d'être bastonné ou bien tabassé ou bien même fait quelque chose de mal, en fait. Parce que c'est quelque chose que mes parents ne supportent pas du tout. J'entends très souvent que mon père dise que bon, les gays, ce sont des personnes que Dieu a détestées de plus. Et puis, des propos comme ça, je me suis obligé de lever, d'aller sortir ou bien d'aller dans ma chambre pour ne pas entendre tous ces mots-là, parce que ça me blesse, en fait.
Aujourd'hui, si on vous disait, si on vous proposait de quitter votre famille, de pouvoir vivre indépendamment, est-ce que vous le feriez ?
Bon, c'est la seule chose que je veux, en fait. C'est la meilleure opportunité, parce que je ne peux pas vivre avec ma famille à cause de mon orientation. Je ne peux pas. C'est eux qui sont vraiment le barrage qui m'empêche de faire ce que j'ai envie de faire, ou bien même de m'exprimer, ou bien de donner tout ce qui est au fond de moi. Parce que à chaque fois que voilà, je prête attention à ma famille, c'est ça qui me bloque.
Je crois qu'elle comprend. Est-ce qu'il y a du vent, il n'y a pas de son.
Alexis et Dominique sont en couple depuis un peu plus de 3 ans. Fin 2019, elles ont fui une grande ville ivoirienne par la route. Alexis explique avoir choisi le Sénégal un peu par hasard.
On ne savait pas que le Sénégal était un pays hostile. Et c'est arrivé ici qu'on a été face à la réalité. Donc pour nous, c'est carrément impossible de vivre ici. Parce qu'on n'est pas, simplement que des amis. C'est un couple et on aspire à la liberté.
Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui vous a poussé à partir, à quitter votre pays natal ?
Bon, d'abord, il y a eu la persécution. Voilà, je suis activiste féministe LGBT. Je ne me cache pas. Depuis 2015, j'ai décidé de m'assumer. Je vivais tranquillement jusqu'à ce que mes parents le sachent. Voilà. Et là, j'ai dû faire face à un mariage forcé. J'ai été gardée à l'église pour une délivrance. C'est de là que je me suis enfuie.
Une délivrance ? On voulait vous délivrer de quoi exactement ?
Mes parents disent, parce que mes parents sont des doyens de leur église, ils disent que l'homosexualité, c'est une malédiction. C'est le diable et c'est ce qui m'a rendue malade. Donc du coup, si j'écoutais la parole de Dieu, j'allais être délivrée de ce mal-là et j'allais guérir de l'hépatite.
Alexis a l'hépatite B depuis plusieurs années. À ses côtés, Dominique a également voulu fuir la violence dans son pays.
La violence a commencé en famille. Et en 2004, je me suis fait agresser par 3 personnes. J'ai été violée. C'est là que j'ai eu mon fils, qui a aujourd'hui plus de 14 ans. Voilà. Donc, tout ce mal-là a fait que aujourd'hui même, j'ai pas de contact même avec ma famille. Parce qu'après ça, tout le monde m'a carrément abandonné. En fait.
C'est au bureau des demandes d'asile que le couple apprend la condamnation de l'homosexualité au Sénégal. Depuis, la trentenaire ne sort plus de l'appartement. Seul Alexis descend parfois faire des courses.
Parce que quand on en sent, la voix et mes voix, ça commence à murmurer, à dire les mots, même si on ne comprend pas. Mais le premier mot qu'on a arrivé ici, qu'on nous a montré, c'était le mot Godjigen. Et la plupart du temps, on entend ça dans les bouches. Ça s'accompagne de rire ou soit de regard. Le choix que tu as fait, tu es en danger. Aujourd'hui, je me dis que on a fui notre pays à cause de ce qu'on subissait là-bas, à cause de nos parents. Mais si on avait une idée, on n'allait pas venir au Sénégal. Franchement, ça a été la plus grande erreur qu'on a faite, mais on espère pouvoir quitter ici le plus tôt possible.
Le couple dit toucher une subvention donnée par une ONG, un montant qui leur permet de payer le loyer. Le tissu associatif et communautaire pour les LGBTI au Sénégal reste très parcellaire. Il n'existe pas officiellement. Toutes les activités des associations sont clandestines, davantage souterraines pour échapper aux représailles. ou pire, aux arrestations. Un réseau existe, mais la plupart de leurs responsables n'ont pas voulu s'exprimer dans ce reportage. Trop risqué, d'après eux, tout semble avoir disparu. Seul un défenseur des LGBTI a bien voulu répondre à nos questions. Son nom est connu dans le pays, Jamil Bangoura, président de l'association Prudence Plus. L'homme a dû s'exiler à de nombreuses reprises pour échapper aux persécutions. Un militant aujourd'hui désabusé.
J'ai subi beaucoup de menaces, j'ai subi beaucoup d'agressions physiques, j'ai subi beaucoup d'insultes, de jets de prières, de foi. Et je me battais, moi je me battais à l'époque. Ici, en réalité, le respect de minorités sexuelles est bafoué à tout niveau. C'est ça la vérité. Ils ne travaillent pas, ils ne vont pas à l'école. Ceux qui vont à l'école, ils se cachent. Jusqu'à quand? Ceux qui vivent dans leur famille, ils le cachent. Ceux qui sont mariés, ils se marient par crainte. Je peux prendre un exemple que je ne vais jamais oublier. C'est quelqu'un que je connais assez, qui est décédé à Thiès. Sa famille l'a enterré. Les gens du quartier sont partis, dirigés par l'imam pour aller déterrer cette personne. L'État ne défend pas, mais ni la société civile, ni les organisations de défenseurs des droits de l'homme. Déjà d'ailleurs, il y a des organisations de défenseurs des droits de l'homme l'ont dit devant nous, dans une ambassade au Sénégal. Journée mondiale de lutte contre l'homophobie. Ils nous ont dit carrément, dans leur feuille de route, nulle part c'est mentionné qu'ils sont là pour défendre le droit des homosexuels.
Le silence laisse la place à une seule parole autorisée dans les médias, celle des organismes pour la défense des valeurs morales traditionnelles.
L'homosexualité ne doit pas prospérer. Dieu a créé l'homme et la femme. L'homme se reconnaît par sa virilité, la femme par sa féminité. Un troisième sexe ne viendrait que du diable.
Aujourd'hui, il y a une mutation de l'homosexualité. Et c'est ça, cette grande mutation qui aujourd'hui doit faire peur au Sénégal. Il faut qu'on puisse endiguer ce phénomène-là avant que ça ne prenne des proportions démesurées et incontrôlables.
Je demande qu'au Sénégal, on corrige les homosexuels. Pas forcément qu'on les lynche dans la rue, mais qu'on les moleste du matin au soir, dans chaque famille.
Bonjour, ça va?
Ouais.
C'est calme ici, hein?
Oui, très calme, bien sûr.
C'est la campagne.
Babacar s'est réfugié en France, dans le bourg d'Argenton-sur-Creuse, dans la région centre du pays.
Oui, bien sûr.
Au Sénégal, il y a près d'un an, il a été pris au piège par sa femme. Ce jour-là, son épouse prétexte une sortie pour la nuit. Un mensonge, elle surprend le soir même son mari avec un homme, Babacar, avec son amant.
Et bon, on était dans la chambre, elle est venue précisément à 20h, 21h, et on était dans la chambre, et on s'amusait, on faisait l'amour. Et du coup, j'ai vu quelqu'un ouvrir la porte. J'ai dit, c'est qui? Elle n'a rien dit, quoi. Elle a ouvert la porte et allumé la lampe. Et subitement, elle nous a vus dans une position inconfortable. J'étais tellement surpris que je n'imaginais pas. Je lui ai dit, mais tiens-toi, qu'est-ce que tu fais ici? Elle m'a dit, ah bon, ce que les gens insinuaient, finalement, la vérité est là. Donc, toi, toutes ces années-là, tu m'as caché ce truc-là. C'était horrible, c'était une humiliation. Parce que, bon, je ne pouvais pas m'expliquer. J'étais bouche bée. C'est comme si le ciel tombait sur moi. Et bon, ma tante est venue. Elle m'a dit que tu as déshonoré notre famille. Elle a appelé mon grand frère, c'est l'aîné. Il l'a dit, Babacar est un homosexuel. On l'a surpris. Et du coup, il n'a plus sa place dans notre famille.
Babacar quitte précipitamment le quartier. Il se réfugie dans un premier temps chez un ami à Dakar. Il faut partir, fuir encore plus loin.
C'est l'humiliation que j'ai subie qui ne me permettait pas de rester dans ce pays. J'ai perdu tout ce que j'avais, ma femme, mes enfants. Mais tu n'oses pas rester dans ce pays-là et exprimer. Tu n'oses pas, sinon on te tue. Si je restais dans ce pays-là jusqu'à aujourd'hui, j'allais mourir, c'est sûr.
Au Sénégal, vous laissez également vos 3 enfants. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire?
C'est compliqué, mais... Néanmoins, je suis leur père. C'est une réalité. C'est une vérité. Mais je me sens fier parce que c'est une orientation, c'est quelque chose qui est inné, c'est moi. Je n'ai pas forgé ça, je n'ai pas choisi ça. Donc on doit me donner cette liberté-là. J'ai cette liberté-là. Mais un jour, ils sauront que je ne suis pas fautif. Un jour, ils sauront que je suis un papa qui les aime et qui pourra faire beaucoup de choses et qui veut faire beaucoup de choses pour eux.
Babacar a été sans domicile fixe en France pendant plusieurs mois avant de demander l'asile. Cette demande est toujours en cours d'examen par l'OFPRA, l'Office français des réfugiés et des apatrides. L'homophobie est ancienne et semble ancrée dans les représentations culturelles. Une orientation sexuelle qui aurait même été importée par les colons français et les Européens. Dans son livre « Un dieu et des mœurs », l'auteur Elgas fait entre autres le récit d'un lynchage public d'un homosexuel de Casamance, au sud du Sénégal. Nous retrouvons l'écrivain à Paris. Pour lui, le rejet des minorités sexuelles et leur obligation de garder le silence sont encore enracinés dans le pays.
Les victimes collatérales de cette forme de barrière, de rempart, ce sont les homosexuels parce qu'on nie que la question, comme partout, elle est consubstantielle à l'humanité. L'homosexualité ne naît pas ailleurs, elle naît dans toutes les sociétés, elle ne ruisselle pas, elle ne vient pas de quelque part, elle existe, point barre, il faut essayer de conjuguer la vie avec. Et je pense qu'il y a une forme de démission devant la parole religieuse. Démission des autorités à la fois politiques, qui ont peur des autorités religieuses, parce qu'il y a une co-tutelle entre le spirituel et le temporel au Sénégal, et c'est que ces autorités morales-là sont dans un front, et dans ce front-là, il n'y a aucune forme de fissure. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de progressistes au Sénégal, mais qui ne disent rien, qui n'osent pas prendre la parole en public pour défendre leurs convictions. Si on arrive à ériger un espace du débat, de manière endogène, sans rendre compte à l'extérieur, nous aurons déjà fait un pas. Un pas qui n'est pas une garantie, mais c'est un début de quelque chose.
Bonjour monsieur.
Bonjour.
Ça va ?
Ça va.
Je travaille à RFI, je suis journaliste. J'ai rendez-vous avec le ministre de la Justice au 7e.
Ministre de la Justice ?
Oui.
Sens monté.
Retour au Sénégal, à Dakar, dans le grand building administratif 7e étage, le ministère de la Justice.
Ouverture des portes.
Article 319 du Code pénal sénégalais sera puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende quiconque aura commis un acte impudique ou contre nature avec un individu de son sexe.
Bonjour monsieur le ministre.
Comment allez-vous ?
Et vous-même ? Bon, merci de nous recevoir.
Merci.
Le ministre Malick Sall écarte toute dépénalisation de l'homosexualité.
Vous savez, on ne gouverne pas contre son peuple. L'homosexualité, en tant que pratique, je crois qu'elle a toujours existé dans toutes les civilisations. Ce que les gens ne veulent pas accepter, c'est d'avoir l'impression qu'on veut leur imposer quelque chose.
Les années passent et le refus du Sénégal n'a pas varié. Une vingtaine de condamnations pour actes contre nature ont eu lieu rien qu'en 2019, d'après plusieurs ONG. La pression de la communauté internationale est toujours présente. Dans son dernier rapport, le Comité des droits de l'homme des Nations Unies incite le pays à prendre des mesures concrètes et urgentes pour s'attaquer à la campagne actuelle de haine contre les personnes du fait de leur orientation sexuelle, en estimant que l'article du Code pénal devrait être abrogé. L'absence de la société civile, de protection et de financement pour les militants LGBTI ont en tout cas empêché, tué dans l'œuf l'émergence des revendications pour l'égalité dans le pays, perpétuant ainsi la grande précarité économique et sociale de celles et ceux qui sont les invisibles du Sénégal.
Au Sénégal, la communauté LGBTI condamnée au silence, un grand reportage de William Delesseux, réalisation Pierre Chaffanjon.